Bonjour tout le monde, on démarre la nouvelle saison en fanfare.
Wouh, Chaban Delmas.
Bon, je sais, c'est pas aussi cool que Pierre Mendès France ou Édouard Herriot, mais c'est sympa quand même.
Ouais, et puis ça fait un peu OSS 117, tous ces vieux noms là, voilà, bon, ça va être fou, Chaban Delmas.
N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a d'autres vieux noms dont vous voulez qu'on parle. Pierre Jox, Jacques Faucard, allez, même Edgar Faure, soyons fous.
Allez, même tous les vieux là dont vous avez l'impression que c'est juste des noms d'arrêts de métro, bah en fait c'est des vrais gens, il y a une histoire derrière, bah nous on peut vous raconter ça, on est là pour ça.
Madame, Monsieur, bienvenue. Si au cours d'une conversation, vous entendez le nom Chaban Delmas, comment vous réagissez ?
Moi, si j'entends ça, je me casse de la conversation.
Si vous êtes bordelais, vous le connaissez forcément. Jacques Chaban Delmas à Bordeaux, c'est comme Édouard Herriot à Lyon ou Gaston Defer à Marseille. Il a été maire de sa ville pendant très longtemps et plein de trucs portent son nom, des rues, des avenues, des squares, des stades et même des ponts entre tradition et modernité.
Symbole du Bordeaux moderne, qui cohabite avec le patrimoine du XVIIIe siècle. Le pont Chaban Delmas est la porte d'entrée du port de la Lune.
Il était tellement lié à Bordeaux qu'on l'a surnommé le duc d'Aquitaine, Chaban.
Ouais, alors que dans Kaamelott, c'est Chabat, le duc d'Aquitaine. À une lettre près, il y avait Chaban Delmas dans le Z-Event.
On n'avance pas du tout, là. Bon, la question que vous vous posez à ce moment, c'est est-ce qu'il est important, ce Chaban ?
Je vous demande si le duc d'Aquitaine, c'est du gros bonnet ou du grouillot ?
Ah bah du gros bonnet, hein.
Gros bonnet.
Bonnet M.
Ouais, énorme bonnet. Non, quand même, c'est du résistant, déjà, donc ça change des fachos de d'habitude. Chaban, d'ailleurs, c'est son nom de résistant. Hein. Son vrai nom, c'est Delmas, mais le général l'appelait Chaban.
Et c'est pas n'importe quel résistant, hein. Il a rejoint la résistance dès 1940.
Pas comme Mitran.
En 1944, Chaban a été nommé délégué militaire pour la France libre et il a été promu général de brigade à seulement 24 ans. C'est un compagnon de la Libération. Encore aujourd'hui, son nom est cité en exemple, comme ici, à l'occasion de l'hommage à Hubert Germain, un autre résistant disparu en octobre 2021. On écoute Macron avec ce fameux discours empreint de gravité.
Serions-nous là ? Serions-nous là ? Sans René Cassin, Jean Moulin, Jacques Chaban Delmas, Romain Gary et André Malraux, sans ce cortège de femmes et d'hommes, fait de bravoure et de sacrifices pour la France.
Oui, complètement. Donc, bon, voilà, ça pose quand même le bonhomme. Hein. C'est autre chose que Darmanin, Le Maire ou Sébastien Lecornu. Combien ils ont tué de nazis, à votre avis ? Zéro, je suis sûr. Zéro.
En effet, c'est sûr que la résistance, ça forge un autre genre d'homme politique que ceux qu'on a maintenant.
Ouais, d'ailleurs, Chaban le disait lui-même, hein, il ne se voyait pas comme un homme politique au sens habituel du terme.
Le sens habituel du terme n'est pas d'une acception très favorable. On dit toujours les hommes politiques, la politique, les politiciens, etc. Bon. Alors, si c'est ça, je n'ai absolument rien de commun avec ce genre d'homme politique.
Bon, ça se la pète un peu quand même.
Oui, un peu de respect, parce que déjà, serions-nous là ? Et ensuite, bon, lui, il dit qu'il n'est pas un politicien comme les autres parce qu'il n'a pas fait carrière.
Je suis habilité aujourd'hui à dire « je ne fais pas carrière et je ne suis pas politicien ».
Par contre, pour un non-politicien qui n'a pas fait carrière, il a quand même fait une belle carrière de politicien. Il a été maire de Bordeaux pendant 47 ans. Il a été député de la Gironde pendant plus de 46 ans. Il a été plusieurs fois ministre sous la 4e République. Il a été trois fois président de l'Assemblée nationale. Surtout, et c'est sur ces deux points qu'on va se concentrer aujourd'hui, il a été premier ministre de 69 à 72 et candidat à la présidentielle de 74. Alors imagine ce qu'il aurait pu faire s'il avait décidé de faire carrière.
Ouais, bah, tu es cynique. Chaban, c'est un gaulliste, donc il est là pour la France. Il est en mission, le gars.
Ça veut dire quoi, être en mission ?
Bah, être en mission au service des autres.
Oui, mais...
Mais c'est assez clair, un médecin...
Oui, mais tous les hommes politiques, un médecin...
Ah, mais moi, je l'ai prouvé, me semble-t-il.
Bon, après cette courte présentation, voici venu l'heure de notre point. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui devient, Chaban ?
Bon, alors, les compagnons de la Libération, comment vous dire ?
Le cercueil, recouvert d'un drapeau tricolore et porté par 12 gardes républicains, l'émotion de l'épouse devant le cortège funèbre...
Bah oui, elle est morte il y a 22 ans, quand même, hein, en 2000.
Et tu sais qui était Premier ministre en 2000 et qui, du coup, était à l'enterrement ?
J'ai peur.
Lionel Jospin ! Il y a Lionel Jospin !
Était côte à côte dans l'église Saint-Louis des Invalides, près des Amis Anonymes, les anciens premiers ministres, de droite et de gauche, de nombreux députés de tous les bancs de l'Assemblée, et pour une fois, toute la famille gaulliste était au grand complet, de Philippe Seguin à Jean Tiberi.
Ah, ça pour Chaban, des hommages, il y en a eu beaucoup. Tous les ministres n'ont pas droit à des funérailles comme ça. Ça veut bien dire que c'est un personnage important de la Ve République.
Même le président de l'époque, qui accompagnait Lionel Jospin à l'enterrement de Chaban, a dit un petit mot quand même à l'enterrement. Et vous allez voir, ça a de l'importance pour la suite.
Ce qui touche beaucoup de Français, c'est la certitude d'avoir perdu en Jacques Chaban Delmas un homme de cœur, un homme de conviction et de courage, un homme de passion partagée.
Bon, là, c'est des obsèques, c'est normal qu'ils en fassent des caisses. Mais des hommages à Chaban, il y en a encore, il y en a même encore eu très récemment.
Oui, on va écouter Richard Ferrand, on est en 2019 à ce moment-là. Richard Ferrand est président de l'Assemblée nationale et il rend hommage à son illustre prédécesseur.
Il y a un demi-siècle, à l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas inventait l'avenir. Dans une France encore structurée par un bipolarisme politique, il invitait la droite à la générosité et la gauche à la modernité. Dans le monde menaçant de la guerre froide, il dessinait la voie d'une France redevenant ce modèle d'audace et de créativité qu'elle avait été aux heures glorieuses de son histoire.
Alors là, l'idée pour Ferrand, c'est de récupérer Chaban à la sauce macroniste en disant qu'il dépassait déjà le clivage gauche-droite.
C'est pas totalement malhonnête, hein. Il y avait en effet un peu de ça chez Chaban.
Vous ne pouvez pas non plus laisser la France séparée en deux blocs irréconciliables, la droite et la gauche, préparant ainsi pour demain de nouveaux troubles, de nouvelles violences.
Le compromis gauche-droite, l'ouverture, ça a toujours été son truc à Chaban. C'était un gaulliste, mais un gaulliste social. Il a d'ailleurs débuté sa carrière politique au Parti radical. Vous savez, c'est ce vieux parti de centre-gauche, plutôt libéral. C'est cette particularité, cette sensibilité qui a incité les gaullistes à faire appel à lui en 69 au poste de Premier ministre. Le choc de mai 68 était dans toutes les têtes. Les universités, les lycées et les usines étaient toujours inflammables. Chaban, à Matignon, allait avoir pour mission de montrer aux Français que le pouvoir politique avait pris acte des évolutions d'une partie de la société et qu'il entendait y répondre.
En 68, alors que le pouvoir tremblait dans ses fondations, que le général fuyait à Baden-Baden et que la bonne société claquait des fesses, Chaban, lui, ne parlait pas de chienlit et il pouvait même se montrer ouvert aux revendications des manifestants.
Oui, il faisait le tri parmi les insurgés. Pour lui, là-dedans, il y avait des agités, mais il y avait aussi de bons réformateurs que le pouvoir aurait intérêt à écouter.
Et ces déclarations sont étonnantes, car il faut dire qu'en 69, la 5ème République est toute jeune, elle n'a que 10 ans. Et à l'Assemblée, c'est majoritairement une droite qui a peur de la rue, une droite qui a eu chaud au cul. On vient de vous expliquer pourquoi.
Nommé Premier ministre, un gaulliste historique, mais qui donne des gages au mouvement social, eh ben ça a paru un choix logique à Pompidou sur le moment.
Jacques Chaban-Delmas était le lieu géométrique où, dans la période de transition qui s'ouvrait, l'équilibre politique pouvait le plus aisément se fixer. Il offrait tout autant le visage de l'ouverture pour l'extérieur que de la continuité pour les gaullistes. Cette citation, on l'a trouvée là-dedans. Le Chaban-Delmas de Jacques Mousseau, 149 francs, aux éditions Perrin.
Bon, on comprend facilement que Richard Ferrand lui rend hommage. Hein, le dépassement du clivage, la synthèse centriste, tout ça sur le papier, ça plaît aux macronos. Mais bon, vous allez voir, il force un peu l'hommage. Hein.
Quel dommage. Et que de temps perdu pour la France, finalement. Car ce que voulait Jacques Chaban-Delmas, il y a 50 ans, jour pour jour, c'est d'abord de faire décoller la France pour qu'elle entre de plein pied dans l'ère nouvelle de l'économie ouverte et du progrès technologique.
Là, Ferrand, il était à deux doigts de dire l'économie numérique.
Ah mais carrément, là, si on le laisse parler, dans deux minutes, il va nous expliquer que la Startup Nation et la France de Chaban-Delmas, c'était la même chose.
Richard Ferrand, là, ne rend pas uniquement hommage au personnage Chaban-Delmas, mais il rend hommage à son discours de politique générale sur la nouvelle société. Un discours prononcé en 1969 devant l'Assemblée nationale, juste après sa nomination à Matignon. Ce discours, il a été marquant pour la toute jeune 5ème République, et ce, à plus d'un titre.
Nous sommes encore un pays de caste, des écarts excessifs de revenus, une mobilité sociale insuffisante maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux.
Alors il dit ça devant une assemblée à majorité gaulliste. Pompidou vient d'être élu, les députés c'est que des droitiflex, alors critiquer un système de caste et parler de social, c'est pas du tout leur langage.
Mais parce que pour Chaban, gaulliste social, il y a social, pour lui ça veut dire quelque chose. Hein. C'est pas Xavier Bertrand qui dit « je suis gaulliste social, on va baisser les charges pour augmenter le salaire net » ou je sais pas quoi. Non, non, avec Chaban c'est quasiment de la social-démocratie qu'on nous propose.
J'ai déjà dit l'importance que le gouvernement attache à la transformation des relations professionnelles. À cette fin, il propose tout d'abord au patronat et aux syndicats de coopérer avec l'État pour des tâches d'intérêt commun.
On comprend mieux les accents et les orientations sociales de ce discours si l'on se penche sur la composition du cabinet de Chaban à Matignon. Un cabinet que le Premier ministre, sportif à 16 heures, aimait présenter comme une équipe de rugby.
Simon Nora et Jacques Delors sont donnés comme les piliers de cette équipe. Leur marque sur le discours du 16 septembre est évidente. Jacques Delors, venu de la CFDT, peut-être tenu pour responsable de l'importance attribuée au dialogue social et au rôle de syndicats rénovés, est devenu plus représentatif de leur mandant. Il y a un truc qu'on oublie souvent quand on parle de mai 68, c'est de rappeler l'importance à cette époque des syndicats, la force de la CGT, la vitalité de la CFDT, tout ça, ça avait fait peur aux bourgeois.
Et c'est pour ça que c'est malin de la part de Chaban d'avoir pris Jacques Delors, qui vient du monde syndical et qui le connaît par cœur.
C'est malin, c'est audacieux, mais c'est risqué.
Il voulait prendre ses risques, et il savait qu'il y avait beaucoup de risques.
Et en s'asseyant à l'époque sur la symbolique de ce qu'était à l'époque la frontière gauche-droite. Formidable.
une ambition d'ouverture au risque d'affronter son propre camp politique.
Mais Chaban voulait même aller plus loin.
Ma volonté d'ouverture m'inclinait vers la gauche. Georges Pompidou s'y est carrément opposé. Il a persisté à refuser l'ouverture vers une gauche modérée, alors radicale socialiste et SFIO, et c'est ainsi qu'en 1981, le pouvoir a changé de côté.
Le duc d'Aquitaine avait fait une grande partie de sa carrière sous la 4e République, un régime d'assemblée où les coalitions de gouvernement hétéroclites étaient monnaie courante.
Mais cette façon de procéder, elle est un peu contraire à l'esprit des institutions de la 5e République, un régime beaucoup plus présidentiel.
Finalement, cette ouverture vers la gauche, il va la faire quand même, mais dans son cabinet, dans sa politique en tant que Premier ministre, et puis évidemment, du coup, dans ce fameux discours du 16 septembre 1969. Dans ce discours sur la nouvelle société, il va évoquer pêle-mêle l'augmentation des bas salaires, le développement de la formation professionnelle, la décentralisation pour accorder plus de liberté au territoire, l'industrialisation de la France ou encore une politique tournée vers la jeunesse.
Et il va même parler de l'ORTF, c'est-à-dire le monopole d'État sur la télévision et la radio, qui était à l'époque contrôlé par le ministère de l'Information.
Ceci concerne d'abord l'ORTF, qui doit conserver son caractère de service public, garant de la qualité de l'ensemble des programmes. Mais pour qu'il puisse répondre pleinement à sa vocation, son autonomie doit être assurée. Une compétition véritable doit être organisée en son sein et il doit être ouvert à tous.
Évidemment, cette proposition est plaie aux journalistes. Hein, mais le discours, globalement, est assez bien reçu dans l'opinion. Chaban Delmas sera de toute façon un Premier ministre assez populaire.
Je crois que l'on peut dire qu'à travers tout son exposé, il a défini un nouvel esprit, aussi bien en ce qui concerne les rapports entre l'État et l'administration qu'au sein même du corps social. Il s'agit, il l'a dit, d'un changement de mentalité.
Et ce changement de mentalité, il est le bienvenu dans une société qui avait craqué un an auparavant.
Et puis vous connaissez hein, la France du général de Gaulle, là je vous remets pas au SS-117 la citation, mais enfin c'est quand même pesant comme France. C'était étouffant, ça sentait le vieux quoi. Bon bah Chaban, sans être un révolutionnaire, il va essayer de mettre un petit peu de couleur dans cette France en noir et blanc.
Il ne va pas se limiter à faire des discours. En tant que Premier ministre, il a notamment baissé la durée du service militaire, il a supprimé le ministère de l'Information, il a mis en place l'autorité parentale partagée entre le père et la mère, le père n'est plus chef de famille, il a lancé le projet de train à grande vitesse, et c'est sous son mandat qu'on commencera à punir les discriminations raciales dans le domaine du travail et du logement.
Ça, c'est le mouvement.
Chaban apparaît comme un ministre qui accompagne le mouvement progressiste de la société post-68 et qui se préoccupe du sort des plus pauvres, comme ici lorsqu'il visite le bidonville de Nanterre.
Il faut qu'on comprenne qu'en France, on ne peut pas laisser encore des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, français ou non, vivre dans ces conditions. Il faut qu'à la fin de 73, pratiquement, ce soit fini. À Paris et en province, car nous avons en province quelques cas difficiles. Et là aussi, il va falloir que les préfets, les maires s'y mettent. Et puis qu'on ne raconte pas qu'on ne peut pas faire un peu de place à des familles qui quittent des bidonvilles. Il y a là une forme nouvelle de ségrégation qui est intolérable.
Quand même, c'est fou, ça. À l'époque, les gens, ils votaient à droite et ils avaient une politique de centre-gauche.
Alors qu'aujourd'hui, bon, on vote à droite, on a une politique de droite. On vote au centre, on a une politique de droite. On vote au centre-gauche, on a une politique de droite.
Alors pourquoi on a tendance à parler de centre-gauche pour Chaban et pas carrément de gauche? Parce que c'est sûr, là, on vous a empilé les mesures progressistes. Eh ben, c'est parce que Chaban, c'est un gaulliste social, peut-être, mais enfin, c'est quand même un gaulliste, hein. Donc, il veut le progrès, mais il veut pas la pagaille.
Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Et c'était la pagaille quand même, l'après 68. Il y avait des grèves, il y avait des manifs, les gens se coiffaient n'importe comment, donc bon, fallait quand même réprimer un peu.
Ça, c'est l'ordre.
Et les manifs et les grèves, à l'époque, c'était sérieux. Hein. On cramait des trucs, on séquestrait les patrons, on bloquait les usines. Et c'est dans ce contexte que Chaban a fait passer la fameuse loi anti-casseurs de 70, qui aggravait les peines pour les séquestrations ou les violations de propriété privée ou publique. C'est sous Chaban aussi qu'on va dissoudre la gauche prolétarienne, un groupe maoïste. C'est sous Chaban qu'on va empêcher la diffusion du journal satirique Harakiri.
Et ça, c'est pas très Charlie.
Voilà, c'est à ce moment-là d'ailleurs que Harakiri devient Charlie Hebdo.
C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui que c'était plutôt une politique de centre-gauche, voire centriste. La nouvelle société, c'est surtout un discours, et c'est ce discours qui est resté célèbre. On a même reproché à Chaban d'en avoir fait des caisses avec un concept finalement vague qui n'a pas trouvé tant de traductions concrètes que ça.
C'est ça. Alors justement, dans votre tête, cette nouvelle société, finalement, est-ce que ça n'a pas été un bon truc, cette appellation nouvelle société?
Moi, je ne réponds pas à ce genre de question.
Non, mais si,
parce que... Non, je ne réponds pas. Non, je considère cette question comme parfaitement désagréable et sans objet.
Bon, alors je vais vous faire une citation.
Quand on croit aux choses, on n'admet pas la mise en cause rigolaire.
De toute façon, dès le discours de politique générale en 69, le concept de nouvelle société avait laissé pas mal de monde dubitatif.
D'abord à gauche, évidemment. On voyait mal comment le Premier ministre allait pouvoir mener une politique progressiste dans une assemblée dominée par la droite traditionnelle. C'est ce qu'a déclaré à la tribune le député de la Nièvre, un certain François Mitterrand.
En vous regardant, monsieur le Premier ministre, je ne doute pas de votre sincérité. Mais en regardant votre majorité, je doute de votre réussite.
C'était très bien vu, parce qu'en effet, son discours n'a pas vraiment enflammé les rangolistes.
Alors, s'il y a un moment où ils étaient contents, c'est quand Chaban a dit « Oui, le grève, quand même, c'est un peu pénible.
Pourquoi » Pourquoi Avant d'avoir épuisé les possibilités normales de discussion, pourquoi ces arrêts brusques de travail, insupportables pour les usagers?
Voilà, mais bon, pour le reste du discours, ils pionçaient, les mecs. Hein.
Et alors ça, c'est pour l'Assemblée. Mais figurez-vous qu'à l'Élysée aussi, ça coinçait. Et ce, avant même le discours sur la nouvelle société. Au moment de réformer l'ORTF, par exemple, quelques semaines plus tôt, Chaban avait voulu mettre à la tête du groupe audiovisuel Pierre Desgroupes. Problème, celui-ci avait fait partie des journalistes grévistes en 68. Donc, premier blocage à l'Élysée. Pour que cette nomination passe auprès de Pompidou, Chaban devra mettre sa démission dans la balance. C'est le début d'un long conflit entre le cabinet de Chaban et la garde rapprochée de Pompidou.
D'un seul coup, sont entrés à la télévision des gens qui parlaient aussi de la gauche, quoi, qui parlaient aussi des communistes. Bon, eh bien ça a changé. Et ce remue-ménage, qui était somme toute naturel et la moindre des choses, est apparu comme éminemment dangereuse aux pompidoliens.
C'était un affrontement meurtrier, meurtrier. Pompidou a cédé parce que je crois qu'il pouvait pas gagner sur un problème qui touchait aux libertés publiques. Et en l'état, on était dans les libertés publiques. Mais ça a pesé lourd après.
Puis, trois mois après sa nomination, donc, arrive le moment de ce fameux discours, le discours avec lequel on vous bassine depuis le début.
La nouvelle société. Hein, retenez-le parce que ça va revenir. Ça.
Voilà, donc le jour du discours arrive et là, Boulette, il oublie d'envoyer le texte au président.
Et alors, vers 1h de l'après-midi, il y a eu un coup de téléphone de l'Élysée disant à mon cabinet, dites-moi, le Premier ministre fait un discours à 4h.
Ouais.
Le président de la République préférait ne pas le connaître par la presse. Alors on s'est précipité, on a envoyé des motards, si on avait pu envoyer un hélicoptère, on l'aurait fait.
Mais c'était
trop évidemment, tard. C'était un peu tard. Mais entre nous, s'il n'y avait pas eu à côté de Pompidou des gens pour mettre de l'huile sur le feu, ça n'aurait pas eu d'effet.
C'est quoi ces gens qui en voulaient à Chaban? Il y aurait des comploteurs? C'est ça? C'est qui? On peut savoir c'est qui?
Si vous voulez connaître les comploteurs qui ont tenté de faire tomber Chaban Delmas, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche.
Le troisième va vous surprendre. Comploteur ou pas comploteur, de toute façon, le tempérament de Chaban s'accorde mal avec celui du président de la République. Pompidou s'entendait mieux avec son ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. Il ne partageait pas la vision politique de Chaban Delmas.
Chaban croit le moment venu de faire du neuf. On ne fait jamais du neuf. Ce sont là des fantasmes d'adolescents et de romantiques. Il n'y a pas de page blanche. On doit se contenter de poursuivre une tapisserie entamée par d'autres et dont la trame nous est imposée.
C'est vrai que le discours sur la nouvelle société, quelque part, remet en cause les fondements de l'État gaulliste, puisqu'il veut instaurer un nouveau dialogue, un nouveau type de rapport entre l'État, les corps intermédiaires, très importants pour, me semble-t-il, ce que l'on doit réfléchir aujourd'hui de l'évolution de la société française, et le citoyen. Il y a donc une nouvelle façon de penser l'État à travers cette thématique de la société.
Devant la défiance des parlementaires gaullistes, avec lesquels il n'a pas des rapports très chaleureux, Chaban va peiner à imposer sa nouvelle manière de faire de la politique.
On vous a dit qu'au départ, il voulait intégrer des radicaux et des socialistes à son gouvernement. Eh bien, le projet de nouvelle société, c'est la même chose. Il veut aimanter les députés de gauche les plus raisonnables, les plus modérés, et ça ne pouvait qu'énerver les membres de son propre parti, l'UDR, le parti gaulliste.
Et ça a énervé franchement le président Pompidou.
Alors, Jacques, vous voulez flanquer la pagaille dans les rangs de la majorité? Vous croyez que nous n'avons pas déjà assez de soucis?
Ce à quoi Chaban répondit
« Si nous ne tentons pas une ouverture en direction de l'opposition, vous verrez que les socialistes vont finir par signer un programme de gouvernement avec les communistes avant les législatives de 1973. »
Alors ça, c'est visionnaire parce que c'est précisément ce qui va se passer. Hein. Souvenez-vous, 71, c'est Épinay, 72, c'est le programme commun avec donc les socialistes, les communistes et une partie des radicaux.
Bon, après, ce qu'on vous a mis, c'est un dialogue rapporté 20 ans après par Chaban Delmas lui-même. Donc ça, c'est facile après d'avoir dit qu'on a pu lire l'avenir dans le passé.
Oui. Bon, en tout cas, ça n'a pas arrangé ses rapports avec l'Élysée, tout ça. La verticalité du pouvoir sous la Ve République entravait fortement Jacques Chaban Delmas dans ses projets. L'homme de la 4e avait une interprétation des institutions et de son rôle de Premier ministre très différente de celle du président de la République.
Chaban avait théorisé la notion de « domaine réservé » du président. Pompidou ne devait s'occuper que de politique extérieure et de défense, et lui, Chaban, s'occuperait du reste. Pour Pompidou, en revanche, il n'y avait pas de domaine réservé. Il s'occuperait de tout, ou presque.
De toute façon, Chaban Delmas prépare déjà la suite. Et lui, évidemment, il se verrait bien président. Hein. Cette ambition, elle est connue de tous, même de Georges Pompidou, qui ne la trouve pas illégitime, mais qui continue de critiquer le style et la politique de son Premier ministre.
Il fait fausse route, et je me tue à le lui dire. Il veut me succéder, et je suis d'accord. Mais s'il continue ses manigances, je vais frapper un coup d'arrêt. Je lui dirai que dans ces conditions, je me représenterai.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir.
Bon, finalement, Pompidou ne va pas se représenter, mais alors, qui c'est qui y va ?
Eh ben, Chaban. Bon, déjà, Chaban, il fait les choses dans les règles. Il obtient l'investiture de l'UDR. Ce sera donc lui, le candidat gaulliste officiel.
Mais bon, c'est pas un spoiler si on vous dit qu'il a jamais été élu président.
Et pour Chaban, s'il a raté, c'est la faute des comploteurs.
Encore les comploteurs.
Vous vous rappelez des comploteurs ?
Ah oui.
Eh ben, sur le plateau de Pivot, en 75, il va être interrogé par un journaliste qui va lâcher un nom et qui va lui dire c'est qui, du coup, les autres comploteurs.
Alors, je vous demande ceci. Qui sont-ils, ces comploteurs que vous désignez mais que vous ne nommez pas ? Vous n'avez nommé que Pierre Juillet. Est-il capable, à lui tout seul, de modifier le résultat d'une élection ? Croyez-vous encore, en 1975 et même auparavant, que dans la France démocratique, le résultat d'une élection, c'est le produit d'une cabale.
Donc la cabale, ce serait un certain Pierre Juillet. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, c'était un conseiller de Georges Pompidou.
C'est un nom de comploteur, ça.
Gaulliste historique, conservateur qui ne jure que par les valeurs de la France profonde, Juillet, homme d'autorité exclusif et ombrageux, à Matignon repère et forme les meilleurs sujets. Machiavel qui conseille le prince, Juillet fait et défait les carrières. Pour celui qui veut arriver sous Pompidou, mieux vaut être un ami de Juillet qu'un adversaire.
Mais Juillet, il complotait pas tout seul. Il avait une complice, la fameuse Marie-France Garraud.
Garraud, c'est aussi une conseillère de Pompidou. Avec Juillet, c'était un peu le duo diabolique de l'ombre, genre méchant dans les films. Et en effet, depuis l'Élysée, ils ont torpillé Chaban pendant ses 3 ans à Matignon.
D'ailleurs, il le nie pas. Marie-France Garraud l'assume complètement des années après sur un plateau. Oui, oui, ils ont emmerdé Chaban à Matignon, puis surtout pendant la campagne présidentielle.
Oui, on a tout fait pour faire. On ne voulait pas que Mitterrand, qui était à la tête de l'Union de la gauche, avec un parti communiste encore costaud, soit élu. Si. Alors, à tort ou à raison, on pensait que Chaban n'avait aucune chance d'être élu en face de Mitterrand.
Alors, comment ils ont fait pour le pourrir ?
Eh ben, d'abord, il faut dire que Chaban, quand il était Premier ministre, il a eu à affronter pas mal de scandales. D'abord, il y a sa fiche d'impôt qui a opportunément fuité dans le Canard enchaîné, et ça a choqué les gens. Il n'y avait rien de frauduleux, mais quand même, on voyait qu'il ne payait pas grand-chose grâce aux abattements fiscaux.
Alors, il y a eu ça a traîné pas mal, d'ailleurs, mais globalement, il y a eu d'autres calomnies qui ont circulé, qui ont traîné dans Paris pendant des années.
Allez-y. Je veux dire que mon père, pendant la campagne présidentielle de 1974, il lui a été reproché d'avoir tué ma mère, sa femme. Et ça, ce sont des calomnies qui ont été apportées par un certain nombre de gens qui étaient dans l'entourage du président Giscard d'Estaing, que lui-même, je n'attaque pas d'ailleurs, mais dans son entourage, vous connaissez bien M. Poniatowski et ses amis. Bon, oui, ben voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les calomnies ne datent pas d'hier.
On sent une grande souffrance là, dans ce que vous nous racontez.
J'étais dans la voiture de ma mère.
À l'élection présidentielle de 1974, il y a donc 3 candidats majeurs. Mitterrand, qui fait très peur, la gauche socialo-communiste, c'est effrayant, en pleine guerre froide. Il y a Giscard, le centriste, à la tête des Républicains indépendants. Et il y a Chaban Delmas, le gaulliste officiel, investi donc par l'UDR. Pour faire tomber Chaban, il faut donc soutenir Giscard. Il faut retourner des gaullistes et les faire voter pour VGE. Mieux, leur faire dire publiquement qu'ils vont voter VGE.
Et pour mener à bien ce projet, Garraud et Juillet vont se servir d'un jeune et ambitieux ministre de Pompidou, celui qu'on surnommait à l'époque le bulldozer, Jacques Chirac.
Pendant 3 jours, à la veille du week-end de Pâques, Chirac, flanqué d'Olivier Stirn, de Jacques Toubon et quelques autres, traque au téléphone les parlementaires gaullistes pour leur demander de signer un texte ampoulé qui regrette l'absence de candidature unique de la majorité sortante. Le coupable est montré du doigt, c'est Chaban. Rendu public le samedi 13 avril, ce texte, qui recueille les signatures de 39 parlementaires et 4 ministres, rentre dans l'histoire sous le nom d'appel des 43. Chez les gaullistes, Chirac passe pour un félon. Chirac, traître, les gaullistes auront ta peau, scande les militants dans les réunions.
Parmi les signataires de ce manifeste, on trouve des gaullistes conservateurs, hostiles à la ligne de Chaban Delmas, mais on trouve aussi des opportunistes qui espèrent peut-être obtenir un poste si Giscard est élu président.
Après ce coup dans le dos, la situation est perçue différemment. Alors qu'il était investi par le mouvement gaulliste, Chaban va apparaître comme celui qui divise la droite.
Alors est-ce que ce manifeste des 43 aura été aussi crucial ? C'est pas si sûr. Voici ce que l'on peut lire dans un article de Jérôme Pozzi sur le sujet. Paru en 2007, l'article est intitulé « L'appel des 43 et le mouvement gaulliste, manœuvre politique, relève générationnelle et fronde des godillots ».
En effet, l'électorat qui votait traditionnellement pour le candidat gaulliste a effectué depuis les législatives de mars 73 un double cheminement idéologique. D'une part, il s'est éloigné lentement des valeurs sociales du gaullisme qu'entendait incarner le maire de Bordeaux, et d'autre part, il s'est converti au début des années 70 à une approche plus libérale de l'économie.
L'électorat de droite a peut-être finalement opté logiquement pour le candidat le plus à droite.
La grande frousse de mai 68 s'éloigne et avec elle, la nécessité pour les conservateurs de faire des compromis avec le mouvement social. La ligne Chaban n'est plus porteuse.
Après, les manigances du trio Juillet-Garot-Chirac ont peut-être eu un effet sur le moral de Chaban. Il a d'ailleurs fait une mauvaise campagne.
D'autant plus que Chirac était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, un poste stratégique pour les élections. Il fera fuiter les sondages de son ministère défavorable à Chaban, et il ira même jusqu'à pousser pour retarder d'une semaine la tenue des élections.
Le calcul de Jacques Chirac est simple. En reculant d'une semaine la date du scrutin, les intentions de vote en faveur de Chaban-Delmas seront encore diminuées, et ses chances seront amoindries face à Valéry Giscard d'Estaing.
Il s'est conduit comme un chenapan. On doit pouvoir faire de la politique sans trahir trop ouvertement ou en trahissant aussi peu que possible. Lui, il est allé franchement.
Ah bah Chirac, il allait loin. Il y a un gaulliste anonyme une fois qui a dit « La grande différence entre Sarkozy et Chirac, c'est que Sarkozy blesse mais ne tue pas. Chirac, lui, il tue, se rend aux obsèques et console la veuve. »
Le cercueil recouvert d'un drapeau tricolore est porté par 12 gardes républicains. L'émotion de l'épouse devant le cortège funèbre. Les condoléances de l'ensemble du monde politique, ce sont quelques-unes des scènes marquantes de cet hommage solennel rendu à Jacques Chaban-Delmas.
L'échec de Chaban-Delmas à la présidentielle de 1974 marque la fin d'une époque. Vraiment.
D'abord, c'est l'avènement d'une nouvelle génération, vu qu'on va se retrouver avec Giscard à la présidence de la République. Et Giscard, pour remercier Jacques Chirac de sa trahison, va le nommer Premier ministre.
C'est le début de la fin pour les gaullistes historiques et leur réseau de résistants qui commence à devenir un peu obsolète. Giscard avait fait la guerre, mais il était tout jeune. Il n'était pas aussi gradé, aussi proche du général de Gaulle que l'était Chaban. Chirac, n'en parlons pas, il n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale. Mais comme Giscard, il connaît bien mieux la Cour des comptes et le Conseil d'État que Chaban. Tous deux énarques, Chirac et Giscard ont été formés à manœuvrer à la tête de l'État, à piloter l'État. Leurs réseaux sont bien plus efficaces et leurs méthodes moins candides que celles du maire de Bordeaux. Économiquement, cette nouvelle génération est plus à droite. Giscard est un libéral convaincu, Chirac un opportuniste avéré. C'en est bel et bien fini du gaullisme social.
Et c'en est bel et bien fini des espoirs de Chaban. La droite a déjà ses deux champions et il n'y a plus de place pour le duc d'Aquitaine et sa politique d'ouverture. Ironie du sort, Giscard, le bon élève de Pompidou, qui lui n'avait pas fait l'erreur de prendre la Ve République pour un régime parlementaire, eh bien c'est finalement lui qui laissera le souvenir d'un président moderne qui aura su dépoussiérer la vieille France pompidolienne avec son projet d'ère nouvelle qui sonne comme une réplique à la nouvelle société.
Bon alors l'héritage de Chaban, il n'est pas forcément là où on pense, hein, parce qu'au début on vous a mis Richard Ferrand, mais est-ce qu'il y a vraiment du Chaban chez Macron ?
Pas vraiment, hein, la politique centriste de Chaban-Delmas c'était une politique de compromis social, de compromis de classe, entre la société, représentée entre autres par les syndicats, et le pouvoir. Une application concrète de cette volonté de dialogue, ça a été par exemple les contrats de progrès.
Les contrats de progrès, c'est l'idée forte de la nouvelle société. L'outil choisi après les mois de grève générale et d'affrontement de mai 68, pour transformer les relations sociales. Leur enjeu, permettre la négociation entre syndicats et patronat. Viser le consensus sur les objectifs, les moyens, les méthodes. La SNCF et EDF sont les premières à tenter l'expérience.
Avant Chaban-Delmas, le salarié de la SNCF ou d'EDF apprenait au Conseil des ministres quelle serait l'augmentation de salaire pour l'année. Là, il les négociait. Et l'État s'engageait à garantir la réalisation de ce contrat sans mettre des accros.
Macron, lui, au contraire, on l'a vu souvent, il impose, il passe par-dessus les corps intermédiaires que Chaban voulait impliquer dans les décisions. Et les concertations sous Macron, on a vu ce qu'elles valent. Hein. En général, c'est de la com, c'est décoratif, mais c'est pas fondamental.
Par contre, un héritier naturel de Chaban, ça peut être Delors. Et en même temps, c'est logique, parce que Delors a été conseiller de Chaban, donc Chaban, c'est déjà un peu Delors.
Et puis finalement, on va peut-être vous choquer, mais on a trouvé qu'il y avait un petit peu de la nouvelle société chez Sarkozy.
Oui, on sait, c'est bizarre, mais partez pas, on va se justifier.
Oui, vas-y, toi.
Sarkozy a démarré son quinquennat en fanfare avec un gouvernement d'ouverture, composé de personnalités piquées à la gauche modérée, comme Éric Besson ou Bernard Kouchner. Alors il l'a fait avec plus de cynisme que Chaban-Delmas, mais l'objectif restait le même. Trianguler la gauche en donnant une coloration sociale à son gouvernement. C'est aussi Sarkozy qui a impulsé la loi de 2008 sur la rénovation de la démocratie sociale, loi qui a totalement refondé les règles de représentativité des organisations syndicales, un texte signé par le MEDEF, la CGPME, mais aussi par la CFDT et la CGT. La grosse différence avec Chaban, c'est que quand Sarkozy propose sa réforme, les syndicats sont déjà beaucoup moins puissants que dans les années 70. Ils font beaucoup moins peur. Et Sarkozy ne pousse certainement pas les gens à se syndiquer.
Bon, la morale de cette histoire, c'est quoi ? Eh ben, moi, je dirais que, finalement, un gros mai 68, des gros syndicats, y a que ça de bon hein, pour effrayer les bourgeois. Parce que c'est quand ils flippent, hein, c'est quand ils ont peur qu'ils osent pas trop nous énerver, du coup ils nous mettent un Chaban et pas un gros bourrin quoi.
Après, à la suite des Gilets jaunes, on a quand même eu Jean Castex. Il dit qu'il est gaulliste social. En tout cas, c'est peut-être un peu réac de le dire, mais s'il y a une autre morale à trouver à cette histoire, c'est que la droite, c'était quand même mieux avant.
Voilà, en tout cas, que vous soyez gaulliste social, social-démocrate ou radical modéré, n'hésitez pas à vous abonner à Blast.
Mais oui, parce que c'est grâce à vos abonnements que Blast peut continuer à produire des émissions comme par exemple Nos Portraits,
ou le truc là sur Internet avec le barbu, là, c'est pas mal.
C'est bien ça, oui.
À dans un mois pour un nouveau portrait.